Il réussit en effet à se lever, et Valméras l'entraîna hors de la chambre. Ils suivirent à tâtons un couloir, et si doucement que chacun d'eux ne percevait pas la présence de l'autre. Une faible lueur, cependant, semblait éclairer le vestibule vers lequel ils se dirigeaient. Valméras passa la tête. C'était une veilleuse placée au bas de l'escalier sur un guéridon que l'on apercevait à travers les branches frêles d'un palmier.
« Halte !»
souffla Valméras. Près de la veilleuse, il y avait un homme en faction, debout, qui tenait un fusil. Les avait-il vus ? Peut-être. Du moins, quelque chose dut l'inquiéter, car il épaula. Beautrelet était tombé à genoux contre la caisse d'un arbuste, et il ne bougeait plus, le cœur comme déchaîné dans sa poitrine. Cependant, le silence et l'immobilité des choses rassurèrent l'homme en faction. Il baissa son arme. Mais sa tête resta tournée vers la caisse de l'arbuste. D'effrayantes minutes s'écoulèrent. 10, 15. Un rayon de lune s'était glissé par une fenêtre de l'escalier. Et soudain, Beautrelet s'avisa que le rayon se déplaçait insensiblement et que, avant 10 autres minutes, il serait sur lui, l'éclairant en pleine face. Des gouttes de sueur tombèrent de son visage sur ses mains tremblantes. Son angoisse était telle qu'il fut sur le point de se relever et de s'enfuir. Mais se souvenant que Valméras était là, il le chercha des yeux. Et il fut stupéfait de le voir, ou plutôt de le deviner, qui rampait dans les ténèbres à l'abri des arbustes et des statues. Déjà, il atteignait le bas de l'escalier, à hauteur à quelques pas de l'homme. Qu'allait-il faire ? Passer quand même ? Monter seul à la délivrance du prisonnier ? Mais pourrait-il passer ? Beautrelet ne le voyait plus, et il avait l'impression que quelque chose allait s'accomplir, une chose que le silence, plus lourd, plus terrible, semblait pressentir aussi. Et brusquement, une ombre qui bondit sur l'homme, la veilleuse qui s'éteint, le bruit d'une lutte. Beautrelet accourut. Les deux corps avaient roulé sur les dalles. Il voulut se pencher, mais il entendit un gémissement rauque, un soupir. Et aussitôt, un des adversaires se releva qui lui saisit le bras. « Vite, allons-y !» C'était Valméras. Ils montèrent 2 étages et débouchèrent à l'entrée d'un corridor qu'un tapis recouvrait.
« À droite, la quatrième chambre, sur la gauche !»
Bientôt, ils trouvèrent la porte de cette chambre. Comme ils s'y attendaient, le captif était enfermé à clé. Il leur fallut une demi-heure d'efforts étouffés, de tentatives assourdies pour forcer la serrure. Enfin, ils entrèrent. À tâtons, Beautrelet découvrit le lit. Son père dormait. Il le réveilla doucement.
« C'est moi, Isidore, et un ami. Ne crains rien, lève-toi, pas un mot !»
Le père s'habilla, mais au moment de sortir, il leur dit à voix basse
« Je ne suis pas seul dans le château. »
« Ah, qui ? Ganimard, Sholmès ?»«
Non, du moins je ne les ai pas vus. »«
Alors ?»«
Une jeune fille. »«
Mademoiselle de Saint-Véran, sans aucun doute.
»« Je ne sais pas, je l'ai aperçue de loin plusieurs fois dans le parc. »« Et puis, en me penchant de ma fenêtre, je vois la sienne et elle m'a fait des signaux. »
Tu sais où est sa chambre ?
Oui, dans ce couloir, la troisième à droite.
La chambre bleue,
murmura Valméras.
La porte est à 2 battants. Nous aurons moins de mal.
Très vite, en effet, l'un des battants céda. Ce fut le père Beautrelet qui se chargea de prévenir la jeune fille. 10 minutes après, il sortait de la chambre avec elle et disait à son fils
« Tu avais raison. « Mademoiselle de Saint-Véran. »
Ils descendirent tous 4. Au bas de l'escalier, Valméras s'arrêta et se pencha sur l'homme, puis les entraînant vers la chambre de la terrasse.
« Il n'est pas mort, il vivra. »«
Ah !
fit Beautrelet avec soulagement. Par bonheur, la lame de mon couteau a plié. Le coup n'est pas mortel. Et puis quoi, ces coquins ne méritent pas de pitié. Dehors, ils furent accueillis par les deux chiens qui les accompagnèrent jusqu'à la poterne. Là, Beautrelet retrouva ses deux amis. La petite troupe sortit du parc. Il était 3 heures du matin. Cette première victoire ne pouvait suffire à Beautrelet. Dès qu'il eut installé son père et la jeune fille, il les interrogea sur les gens qui résidaient au château, et en particulier sur les habitudes d'Arsène Lupin. Il apprit ainsi que Lupin ne venait que tous les 3 ou 4 jours, arrivant le soir en automobile et repartant dès le matin. À chacun de ses voyages, il rendait visite aux deux prisonniers, et tous deux s'accordaient à louer ses égards et son extrême affabilité. Pour l'instant, il ne devait pas se trouver au château. En dehors de lui, il n'avait jamais vu qu'une vieille femme, préposée à la cuisine et au ménage, et deux hommes qui les surveillaient tour à tour et qui ne leur parlaient point, deux subalternes évidemment, à en juger d'après leur façon et leur physionomie.
Deux complices tout de même, conclut Beautrelet. Ou plutôt, trois, avec la vieille femme. C'est un gibier qui n'est pas à dédaigner. Et si nous ne perdons pas de temps...
Il sauta sur une bicyclette, fila jusqu'au bourg d'Aiguzon, réveilla la gendarmerie, mit tout le monde en branle, fit sonner le bout de selle et revint à Crozon à 8 heures, suivi du brigadier et de 8 gendarmes. Deux de ses hommes restèrent en faction auprès de la roulotte. Deux autres s'établirent devant la poterne. Les 4 derniers, commandés par leur chef et accompagnés de Beautrelet et de Valméras, se dirigèrent vers l'entrée principale du château. Trop tard. La porte était grande ouverte. Un paysan leur dit qu'une heure auparavant, il avait vu sortir du château une automobile. De fait, la perquisition ne donna aucun résultat. Selon toute probabilité, la bande avait dû s'installer là en camp volant. On trouva quelques hardes, un peu de linge, des ustensiles de ménage, et c'est tout. Ce qui étonna davantage Beautrelet et Valméras, ce fut la disparition du blessé. Ils ne purent relever la moindre trace de lutte, pas même une goutte de sang sur les dalles du vestibule. Somme toute, aucun témoignage matériel n'aurait pu prouver le passage de Lupin au château de l'Aiguille. Et l'on aurait eu le droit de récuser les assertions de Beautrelet et de son père, de Valméras et de Mademoiselle de Saint-Véran, si l'on avait fini par découvrir, dans une chambre contiguë à celle que la jeune fille occupait, une demi-douzaine de bouquets admirables auxquels était épinglée la carte d'Arsène Lupin. Bouquets dédaignés par elle, flétris, oubliés. L'un d'eux, outre la carte, portait une lettre que Raymond n'avait pas vue. L'après-midi, quand cette lettre eut été décachetée par le juge d'instruction, on y trouva 10 pages de prières, de supplications, de promesses, de menaces, de désespoir. Toute la folie d'un amour qui n'a connu que mépris et répulsion. Et la lettre se terminait ainsi. « Je viendrai mardi soir, Raymonde. D'ici là, réfléchissez. Pour moi, je ne veux plus attendre. Je suis résolu à tout. » Mardi soir, c'était le soir même de ce jour où Beautrelet venait de délivrer Mademoiselle de Saint-Véran. On se rappelle la formidable explosion de surprise et d'enthousiasme qui éclata dans le monde entier à la nouvelle de ce dénouement imprévu. Mademoiselle de Saint-Véran libre. La jeune fille que convoitait Lupin, pour laquelle il avait machiné ses plus machiavéliques combinaisons, arrachée à ses griffes. Libre aussi le père de Beautrelet, celui que Lupin, dans son désir exagéré d'un armistice que nécessitaient les exigences de sa passion, celui que Lupin avait choisi comme otage. Libres tous deux, les deux prisonniers. Et le secret de l'aiguille, que l'on avait cru impénétrable, connu, publié, jeté aux 4 coins de l'univers. Vraiment, la foule s'amusa. On chansonna l'aventurier vaincu, les amours de Lupin, les sanglots d'Arsène, le cambrioleur amoureux, la complainte du pickpocket,
Cela se criait sur les boulevards. Cela se fredonnait à l'atelier. Pressé de questions, poursuivi par les intervieweurs, Raymonde répondit avec la plus extrême réserve. Mais la lettre était là, et les bouquets de fleurs, et toute la pitoyable aventure. Lupin, bafoué, ridiculisé, dégringola de son piédestal. Et Beautrelet fut l'idole. Il avait tout vu, tout prédit, tout élucidé. La déposition que Mademoiselle de Saint-Véran fit devant le juge d'instruction au sujet de son enlèvement confirma l'hypothèse qu'avait imaginée le jeune homme. Sur tous les points, la réalité semblait se soumettre à ce qu'il la décrétait au préalable. Lupin avait trouvé son maître. Beautrelet exigea que son père, avant de retourner dans ses montagnes de Savoie, prit quelques mois de repos au soleil, et il le conduisit lui-même, ainsi que Mademoiselle de Saint-Véran, aux environs de Nice, où le comte de Gesvres et sa fille Suzanne étaient installés pour passer l'hiver. Le surlendemain, Valméras amenait sa mère auprès de ses nouveaux amis, et ils composèrent ainsi une petite colonie, groupée autour de la villa de Gesvres, et sur laquelle veillaient nuit et jour une demi-douzaine d'hommes engagés par le comte. Au début d'octobre, Beautrelet, élève de rhétorique, alla reprendre à Paris le cours de ses études et préparer ses examens. Et la vie recommença, calme cette fois et sans incident. Que pouvait-il d'ailleurs se passer? La guerre n'était-elle pas finie? Lupin devait en avoir de son côté la sensation bien nette, et qu'il n'y avait plus pour lui qu'à se résigner au fait accompli. Car un beau jour, ses deux autres victimes, Ganimard et Herlock Sholmès, réapparurent. Leur retour à la vie de ce monde manqua du reste totalement de prestige. Ce fut un chiffonnier qui les ramassa, quai des Orfèvres, en face de la préfecture de police, et tous deux endormis et ligotés. Après une semaine de complet ahurissement, ils parvinrent à reprendre la direction de leurs idées et racontèrent, ou plutôt Ganimard raconta, car Sholmès s'enferma dans un mutisme farouche, qu'ils avaient accompli, à bord du yacht L'Hirondelle, un voyage de circumnavigation autour de l'Afrique. Voyage charmant, instructif, où ils pouvaient se considérer comme libres, sauf à certaines heures qu'ils passaient à fond de cale, tandis que l'équipage descendait dans des ports exotiques. Quant à leur atterrissage au quai des Orfèvres, ils ne se souvenaient de rien, endormis sans doute depuis plusieurs jours.